Vous écoutez On lit pour vous.
Interdire, c'est interdit. Un texte de Rima El Khoury, paru le 28 septembre 2024 dans La Presse. La première fois que j'ai signé une pétition, j'étais en sixième année. Mes camarades de classe et moi contestions un règlement interdisant aux filles et aux garçons de jouer ensemble à la récréation. En dépit de leur bien fondé, nos revendications ont été très mal accueillies par la direction de notre école privée catholique du nord de la ville. Cette première pétition à vie m'a valu une première punition à vie. Oubliez la récré, oubliez la mixité, oubliez l'égalité, retenue pour toute la classe. Ça vous apprendra à vouloir jouer ensemble dans la cour d'école. Cette histoire absurde qui m'a appris à 11 ans que les adultes n'ont pas toujours raison, m'est revenue en tête en prenant connaissance de l'enquête de mes collègues Gabrielle Duchesne et Ariane Lacourcière sur les écoles primaires qui multiplient les interdits dans les cours de récréation. On s'attendrait à ce que l'école favorise le bien-être, le développement et la saine socialisation des enfants, tant en classe que dans la cour. On s'attendrait à ce qu'elle soit au diapason des plus récentes recommandations d'experts. C'est pourtant tout le contraire qui se produit dans bon nombre d'écoles. Alors que la Société canadienne de pédiatrie recommande de favoriser le jeu risqué chez les enfants, la tendance est de le restreindre, ont constaté mes collègues en épluchant les codes de vie et les règlements de plus de 450 écoles primaires du Québec. Bien que l'on n'interdise plus le jeu mixte, comme dans la cour d'école de mon enfance, la liste des activités défendues donne le tournis. Interdit de lancer des boules de neige. Interdit de jouer dans les flaques d'eau. Interdit de se tenir debout sur une plaque de glace ou d'y glisser les pieds. Interdit de jouer à la guerre. Au nom de la sécurité à tout prix, on confond risque et danger. Jeu de bataille et vraie bataille. Chamaillage sain et intimidation. On oublie que le jeu libre est essentiel au développement et à la santé physique et mentale de l'enfant. On oublie aussi que le jeu risqué comporte des bienfaits sous-estimés. À l'heure où les enfants passent trop de temps devant des écrans, c'est un moyen de prévenir plusieurs problèmes de santé liés à la sédentarité. C'est aussi une façon d'apprendre à mieux gérer son anxiété, de s'exposer à la peur et à l'incertitude afin de mieux les surmonter. Chaque fois qu'un règlement est mis en place dans une école, on devrait se demander s'il est réellement conçu pour le bien-être de l'enfant. Ça vaut pour le règlement idiot imposant des dîners en silence à des élèves du primaire, tout comme pour les interdits concernant des activités risquées qui contribuent à leur sain développement. Quand on invoque la sécurité, il faut se demander la sécurité de qui au juste? Celle de l'enfant ou celle de l'adulte qui ne veut pas avoir trop de choses à gérer? Me dit Réjeanne Brodeur, présidente du conseil d'administration de l'Association québécoise de la garde scolaire. Personne n'est contre les mesures de prévention élémentaire, ça va de soi. Loin de moi l'idée d'être nostalgique de l'époque où les enfants ne mettaient ni ceinture de sécurité ni casque de vélo. Mais sur le chemin de la prévention, notre époque, qui carbure à la peur, est parfois en proie à des mouvements de panique injustifiés. Rappelez-vous l'hystérie sécuritaire des écoles qui ont fermé leurs portes le jour de l'éclipse, au lieu de s'organiser pour faire de l'événement astronomique du siècle une formidable expérience collective pour leurs élèves. Au nom de la sécurité à tout prix, on a raté là une merveilleuse occasion d'apprentissage. Si de nombreuses écoles ont compris que les interdits non justifiés sont autant d'interdictions d'apprendre, on note trop souvent des contradictions entre la théorie et la pratique, déplore Réjeanne Brodeur. Celle qui a 31 ans d'expérience comme éducatrice enseigne aujourd'hui à la relève. Le jeu actif, et forcément risqué, fait partie intégrante des bonnes pratiques enseignées dans le cadre de la formation exigée par le ministère de l'Éducation, souligne-t-elle. Je me tue à dire à mes futures éducatrices qu'il faut qu'elles soient des agents de changement pour défaire certaines pratiques. Il s'agit là d'une responsabilité collective, rappelle Mme Brodeur. Car les règles imposées dans un milieu scolaire ne reflètent pas uniquement la vision de l'éducation du personnel, mais aussi celle des parents qui en discutent au conseil d'établissement. Si on a affaire à des parents surprotecteurs qui paniquent à la moindre éraflure, on ne peut pas s'étonner de voir des directions qui pêchent par excès de prudence. Mme Brodeur rappelle que, aujourd'hui, les poursuites sont tellement courantes. Alors on se protège. Mais on se protège comme adulte. On ne pense pas du tout au bien-être de l'enfant là-dedans. Un retour du balancier s'impose. L'équilibre peut être difficile à trouver lorsque l'école fait face à une pénurie de personnel qualifié et qu'elle accueille des enfants à besoins particuliers. Dans un tel contexte, la tentation d'ajouter des interdits pour simplifier la gestion est grande. Mais faire les choses autrement n'est pas mission impossible pour autant. Plusieurs milieux intègrent des enfants ayant un trouble du spectre de l'autisme et ça se passe quand même bien, souligne l'enseignante. Lorsqu'on travaille le respect de l'autre avant de jouer, que l'on fait des activités à caractère social et affectif, en prévention, les enfants sont en mesure de comprendre que l'on ne peut pas tout faire quand on joue dehors ou au gymnase. Il y a toujours moyen de baliser intelligemment le jeu risqué plutôt que de l'interdire. Si on craint, par exemple, que la permission de lancer des boules de neige devienne un laissez-passer pour l'intimidation, on peut fort bien désigner une zone de la cour d'école pour cette activité ou installer des cibles au mur. On doit aussi garder en tête que, contrairement à ce que l'on pourrait croire, le jeu turbulent et désorganisé, même quand il comporte son lot de bousculades et de bagarres, n'est pas mauvais en soi pour les enfants. Des études lui prêtent une foule de vertus. Diminution des cas d'intimidation, augmentation des habiletés à gérer les conflits, meilleure estime de soi, plus grande concentration. Si on a vraiment à cœur le bien-être des enfants, tout ça vaut bien le risque d'interdire tous ces interdits. C'était « Interdire ces interdits », un texte de Rima El-Khoury, paru le 28 septembre 2024 dans La Presse.
Une unité mobile pour collecter des données sur le vieillissement auprès des aînés. Un texte de Guylaine Charrette, paru le 19 septembre 2024 sur Ici Estrie. Le Centre de recherche sur le vieillissement du CIUS de l'Estrie CHU veut élargir son champ d'action en rejoignant les aînés là où ils sont. Une unité mobile aménagée dans une remorque permettra d'aller à la rencontre des aînés prêts à participer à différentes études sur le processus de vieillissement, une première au Canada. À peu près 70 % des personnes âgées de 65 ans et plus vivent à l'extérieur de Sherbrooke. Pour les rejoindre, l'unité mobile se rendra dans les communautés rurales ou éloignées, dans les centres de soins de longue durée et les résidences pour personnes aînées afin de démocratiser la recherche. On veut décloisonner la recherche, faire en sorte qu'elle soit plus inclusive, ce qui veut dire sortir de nos murs, dit Éléonore Riesco, co-directrice au Centre de recherche sur le vieillissement. Le laboratoire ambulant permettra de réaliser différents tests physiques ou cognitifs. Un vélo stationnaire permettra, par exemple, d'évaluer l'état physique. L'unité est aussi munie de tous les équipements nécessaires pour faire des bilans sanguins, prendre la tension artérielle et traiter de façon adéquate les échantillons biologiques comme du sang ou des tissus. On peut traiter tous les spécimens biologiques collectés. On a même un congélateur avec une température de moins 80 degrés Celsius, explique la co-directrice du Centre de recherche sur le vieillissement, Éléonore Riesco. Un des grands problèmes de la science, c'est le manque d'hétérogénéité. Si on fait de la recherche toujours avec le même type de personne, cette recherche ne s'applique pas à tout le monde. La diversité est essentielle, précise-t-elle. Pas une clinique. Même si l'unité mobile ne joue pas le rôle de clinique ambulante, des découvertes fortuites peuvent s'y produire. Chaque étude clinique, avec un humain, a l'obligation d'avoir un protocole en cas de découverte fortuite. On peut découvrir de l'hypertension ou du diabète chez un participant, note Éléonore Riesco. Dans ces cas-là, on a différentes stratégies pour informer la personne, le médecin traitant, le cas échéant, ou encore orienter la personne vers une équipe de spécialistes avec lesquels on travaille. L'objectif n'est pas de faire un diagnostic, mais de transmettre les informations si des suivis sont nécessaires. Les deux chercheurs porteurs du dossier et co-directeurs scientifiques du Centre de recherche sur le vieillissement, Éléonore Riesco et Carl Fernandez, estiment que ce projet contribuera à changer les pratiques. À quel genre d'études serviront les échantillons recueillis? Madame Riesco cite quelques exemples. On peut récupérer des cellules, les faire développer dans différents types de tissus, puis tester l'effet de certains médicaments, ce qui évite de les tester sur des humains. On peut aussi extraire des cellules immunitaires et voir comment l'exercice les mobilise. L'unité mobile pourra être utilisée pour des recherches en biologie, mais aussi en sociologie. Les recherches pourront porter sur la santé cognitive, les aspects sociaux du vieillissement ou encore sur des maladies comme le cancer. La première sortie de l'unité mobile est prévue les 26 et 27 octobre au Centre de foire de Sherbrooke à l'occasion du Salon 50+ de la FADOC de l'Estrie. C'était une unité mobile pour collecter des données sur le vieillissement auprès des aînés, un texte de Guylaine Charrette, paru le 19 septembre 2024 sur Ici Estrie.
Des mets gastronomiques jusque dans l'espace, un texte de Stéphane Champagne, paru le 9 octobre 2024, dans la presse. Passé maître de la lyophilisation, les aliments Active commercialisent des mets qu'il est possible de consommer dans les endroits les plus inaccessibles, y compris dans l'espace. Il suffit d'y ajouter de l'eau bouillante. La PME de Cowansville vient d'ailleurs de lancer une gamme de smoothies qui a attiré l'attention de l'Agence spatiale canadienne et des Forces armées canadiennes. Ce ne sera pas la première fois que les aliments Active, dont les produits sont vendus sous la marque Happy Yak, iront en orbite autour de la Terre. Sans pouvoir donner trop de détails, la PME indique qu'un astronaute québécois a dégusté, ces dernières années, des mets lyophilisés à Pillac lors de son séjour dans la Station spatiale internationale. On lui a même préparé des repas inspirés des recettes de sa conjointe, explique avec enthousiasme Guy Dubuc, vice-président et cofondateur de cette entreprise de 10 employés. Ces derniers mois, l'entreprise a reçu à quelques reprises la visite d'une délégation de l'Agence spatiale canadienne. La PME ne peut révéler la nature de ces rencontres, mais disons qu'elles sont de bon augure, indique Guy Dubuc, gestionnaire de carrière et adepte de plein air. Idem pour les Forces armées canadiennes, qui voient dans la technologie de la lyophilisation une avenue intéressante. Smoothies pour tous. En juin 2024, Appillac a procédé au lancement de Smoothies. En plus d'utiliser des fruits revalorisés, ou moches, selon l'expression consacrée, les quatre Smoothies sont véganes, sans lactose, sans blé, sans sucre ajouté et sans gluten. Et ils contiennent 9 grammes de protéines. Ça nous a pris un an de recherche et développement, nous dit Christine Chénard, présidente et cofondatrice des Aliments Actifs. Il fallait trouver une façon que ce soit soluble tout en ayant une texture intéressante. Et il fallait trouver le bon emballage afin que nos smoothies aient une durée de vie de 3 à 5 ans, ce qui est le cas pour tous nos autres produits. La lyophilisation des aliments utilise le processus de sublimation. Les ingrédients sont placés dans une enceinte à moins 45 degrés Celsius et subissent un séchage à froid. Résultat, l'ingrédient lyophilisé, fruits, légumes, viande, etc., perd environ 70 % de son poids, mais pas ses nutriments ni sa belle apparence. Les quatre modules de lyophilisation de la PME, installés dans des salles blanches et valant plusieurs dizaines de milliers de dollars chacun, ressemblent à d'immenses congélateurs high-tech de la grosseur d'une voiture de golf. L'entreprise québécoise utilise 200 ingrédients différents. Une fois qu'ils sont lyophilisés, on assemble les ingrédients pour en faire des repas. Il faut les équilibrer. Et la maîtrise de l'assemblage est l'un de nos secrets, explique Christine Chénard, elle aussi férue de plein air. Lors du passage de la presse, une belle odeur sucrée flottait dans les installations de l'entreprise, alors que les employés procédaient à l'emballage de granola aux petits fruits. La PME commercialise 30 produits haut de gamme, tant pour le déjeuner, le dîner que le souper. De la soupe-repas au pad thaï, en passant par le porc braisé, les portions individuelles sont vendues entre 8 et 20 $. L'entreprise vend également des emballages de cubes de poulet, de bœuf haché, de protéines de soya et de lait entier. La PME Les Aliments Actifs a été cofondée en 2012 par Guy Dubuc et Christine Chénard. Cette dernière possède une maîtrise en nutrition et connaît la lyophilisation comme nul autre. À la fin des années 1990, elle s'occupait de la logistique alimentaire pour les expéditions de l'explorateur Bernard Voyer. Les produits à Pillac sont offerts dans 400 points de vente au Canada, mais aussi dans une quarantaine d'endroits aux États-Unis. On les retrouve principalement dans les boutiques de plein air. La PME reçoit également des commandes d'un peu partout dans le monde par son site web. Nos produits voyagent et sont connus à travers la planète, indique Guy Dubuc. Un client de la Suisse a vu nos produits quand il a croisé des Canadiens qui étaient en train d'en manger en Australie. C'était Des mets gastronomiques jusque dans l'espace, un texte de Stéphane Champagne, paru le 9 octobre 2024 dans La Presse.
Aîné et retraité de la communauté gay, nouveau directeur général. Un texte d'André-Constantin Passiour, paru le 24 septembre 2024 dans le magazine Fugue. Cette association, qui existe depuis 2001 et à laquelle participent plus de 380 personnes, organise des activités pour hommes gays de 50 ans et plus. Souper communautaire, brunch le dimanche, une des activités les plus populaires d'ailleurs, groupes de discussion, sorties culturelles, sorties dans des restos, balades sur le Mont-Royal, durant la saison chaude, etc. Ce groupe ne cesse de diversifier ses activités afin de briser l'isolement de ces hommes et de créer un sentiment d'appartenance et d'entraide. Récemment, en remplacement de Jocelyn Négari, qui est en congé de maladie, voici que l'Association des aînés et retraités de la communauté gay, ARCG, vient de nommer, il y a quelques semaines, Sébastien Dulude en tant que directeur général par intérim de l'organisme. Nommé depuis bientôt 2 mois, Sébastien Dulude se sent tout à fait chez lui. « J'étais déjà membre depuis plusieurs années, puis j'ai vu que le poste à la direction générale était disponible. J'ai appliqué et je l'ai eu. Je trouve l'ARCG merveilleux. Il permet de briser l'isolement. Les gens peuvent se rencontrer, développer une fraternité. Cela répond à un besoin affectif, de dire celui qui est intervenant psychosocial depuis une trentaine d'années et qui a fait bien des projets dans sa vie. » Sébastien Dulude s'est trouvé un local de bureau à l'entraide des Grands Brûlés, sur la rue Saint-Hubert, et dont il est le vice-président du conseil d'administration. Car effectivement, comme l'ARCG a toujours fonctionné de manière bénévole, l'association ne possède pas de bureau. Ce bureau est une gracieuseté de l'Association des pompiers de Montréal et des Grands Brûlés, dit-il. Il y a quelque temps, l'ARCG a reçu une subvention de 600 000 $ d'Emploi et Développement social Canada pour accompagner les gens qui ont des besoins spécifiques, pour engager du personnel et pour louer des locaux. Il y a beaucoup de besoins, d'où la création de plusieurs postes. Un coordonnateur, un intervenant, un adjoint administratif et peut-être aussi un autre intervenant pour aller chercher des bénévoles pour aider les autres. Il ne faut pas oublier que notre mission est justement par et pour les membres, et ainsi venir en aide et en appui aux gens qui sont dans le besoin, souligne-t-il. Bien sûr, comme chaque nouveau directeur, Sébastien Dulude rêve un peu. Il a de l'énergie à revendre pour réussir des projets pour l'ARCG. Mon souhait serait d'acheter un building pour l'ARCG pour des personnes en chaise roulante, en marchette, etc., et offrir des services avec des intervenants, un lieu où ils vont se sentir chez eux, pour prendre un café, pour discuter, pour qu'ils soient épanouis. L'autre facette serait de poursuivre les activités de socialisation, de répondre à leurs besoins parce que l'ARCG est un organisme de bienveillance qui se soucie de la qualité de vie de tant d'hommes qui vivent parfois isolés, qui n'ont pas envie de retourner au placard. Et ça, c'est une réalité plus qu'on ne le pense, même aujourd'hui en 2024. Évidemment, ce souhait ne se réalisera pas dès demain. Il n'y a malheureusement pas de baguette magique d'Harry Potter, et nous ne vivons pas dans le merveilleux monde du ministère de la magie. Alors, que peut-on faire dans la réalité? Dans l'immédiat, il y a l'ouverture d'un bureau à la halte 24-7, au coin de Rachel et de la Roche, face au parc La Fontaine. On peut y louer des salles et faire des activités à l'extérieur dans le parc, surtout quand il fait beau. Je crois que les gens vont beaucoup apprécier ça, explique Sébastien Dulude. Le mot « bonheur » revient souvent dans la conversation. « J'aime faire les choses dans le bonheur. J'aime travailler dans le bonheur », dit avec un large sourire Sébastien Dulude. Et il veut justement s'occuper du bonheur de ceux qui sont moins fortunés. car s'il y a des gens qui ont eu un emploi avec une belle retraite dorée, d'autres n'ont pas cette chance et peuvent vivre dans la maladie et la pauvreté. Nous distribuons des cartes de 50 $ de l'épicerie Trois Paniers sur Sainte-Catherine-Est, indique-t-il. Discrètement, nous payons aussi le brunch du dimanche à ceux qui n'en ont pas les moyens, car ils ne désirent pas que les autres le sachent. Ils ont droit, comme tout le monde, de pouvoir y participer, d'avoir du plaisir, d'avoir un peu de bonheur dans leur vie, et cela contribue à briser leur isolement et à se faire des amis. Et je le répète, c'est ce qu'il y a de merveilleux avec la RCG. Ce nouveau directeur général par intérim a rencontré dernièrement Stephen Guilbeault, le député de Laurier-Sainte-Marie et ministre de l'Environnement dans le gouvernement Trudeau. Je lui ai parlé des gens du troisième âge qui vivent de la stigmatisation, de la discrimination. Il faut les faire reconnaître, il faut les aider. Il faut continuer la mission de Renaud Paré. Je me suis senti écouté par Stephen Guilbeault. Il était attentif, note Sébastien Dulude. Lors de cette entrevue, nous avons malheureusement appris le décès du fondateur et idéateur de l'ARCG, Renaud Paré, le 11 août dernier. Alors que le défilé de Fierté Montréal battait son plein, Renaud Paré s'en est allé à 14h30 exactement, soit lors de la minute de silence. Il a été emporté par un cancer généralisé, dit avec tristesse Sébastien Dulude. C'était quelqu'un d'une grande empathie envers les gens. C'était un rassembleur. C'est pourquoi nous voulons rassembler les gens, les membres, pour lui rendre hommage, puisque c'était aussi un grand défenseur des droits LGBTQ+. J'aimerais créer un comité Renaud Paré pour continuer à perpétuer de manière spécifique son œuvre. Pour la petite histoire, en 2001, Renaud Paré met une annonce dans le Fugue pour savoir si des hommes gays plus âgés voudraient se rencontrer lors d'un brunch le dimanche. C'est le succès instantané. Plusieurs dizaines de personnes se présentent lors de ce repas et forment presque immédiatement des amitiés. Renaud Paré comprend que le besoin est grand et crée alors le groupe des aînés et retraités de la communauté. Le Fugue nous a beaucoup aidés. Il fait la différence, mais des gens ne connaissent pas encore la RCG. Un de mes objectifs est justement de publiciser la RCG, de dire aux gens qu'il existe, qu'on peut les aider, qu'ils n'ont pas à se cacher, qu'on peut tisser des liens et participer à des activités, de conclure Sébastien Dulude. Info, page web, arcmontréal.org. C'était... Aînés et retraités de la communauté gay, nouveau